VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, bonjour à tous. Il est 9h en temps universel. L'émissaire des Nations Unies, chargé d'enquêter sur les droits de l'homme en Birmanie, a appelé jeudi à de vastes sanctions punitives contre le gouvernement militaire qu'il a accusé d'avoir assassiné et d'avoir arrêté illégalement des manifestants pacifiques depuis le coup d'État du 1er février. Thomas Andrew a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est réuni aujourd'hui pour discuter de la situation en Birmanie, à imposer un embargo sur les armes et des sanctions économiques contre les membres de la junte militaire. Il a aussi suggéré au Conseil de saisir la Cour pénale internationale, CPI, pour des atrocités qu'il définit comme un génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le Sénat américain a débuté hier l'examen du gigantesque plan de relance voulu par Joe Biden, le président, avec la lecture exhaustive de plus de 600 pages du texte sur la demande des républicains opposés au projet de loi qui devrait être adopté dans les prochains jours grâce aux voix démocrates. La vice-présidente américaine Kamala Harris a dû intervenir, comme l'y autorise la Constitution, pour départager le vote autorisant l'ouverture des débats, car les 50 sénateurs démocrates avaient voté en sa faveur et les 50 républicains contre, un avant-goût des votes serrés à venir au cours du marathon attendu dans l'hémicycle d'ici lundi. L'opposante béninoise Rekia Madugu, dont la candidature à la présidentielle du 11 avril a été rejetée, a été interpellée mercredi pour être entendue dans une affaire de terrorisme, a annoncé hier le procureur d'un tribunal spécial de Porto Novo. Selon ce procureur, cité dans un communiqué, Mme Madugu est accusée d'avoir fait parvenir de l'argent à un ancien officier de l'armée afin qu'il se charge du meurtre d'une autorité influente d'une ville du nord du Bénin, puis de l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Deuxième jour de contestation hier au Sénégal, après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, deux morts, des blessés graves et des magasins pillés ont rythmé la contestation. Des violences envers les médias ont clos une journée particulièrement mouvementée. Compte rendu à Dakar de notre correspondance Edina Bagay, lu par Abdou Ramandia.
Le groupe de presse GFM, propriété du célèbre chanteur Youssou N'Dour, a été la première cible des manifestants. L'immeuble qui abrite la radio RFM et le quotidien L'Observateur a subi la furie des manifestants. Les vitres ont été caillassées et des voitures de journalistes incendiées devant le regard impuissant de leurs propriétaires. Après cette attaque, des jeunes cagoulés et munis de cocktails Molotov ont fait cap sur le quotidien national Le Soleil, qu'ils ont vandalisé avant d'essayer d'y mettre le feu. Il a fallu une farouche résistance de quelques employés présents sur place pour éviter le pire. Le média en ligne Dakar Actu a également subi une attaque et d'autres organes de presse ont été placés sous la surveillance des forces de l'ordre. Avant ces actions contre ces groupes de presse, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, CNRA, avait coupé le signal de CNTV et du mythique groupe Walfakri, les accusant d'inciter à la violence, une décision qui a accentué les vives tensions de cette deuxième journée de manifestation marquée par la mort par balle d'un jeune de 20 ans dans le sud à Bignona et celle d'un autre de 16 ans dans la banlieue de Dakar. Des scènes de pillage ont aussi été notées dans plusieurs villes du pays. L'opposant Ousmane Sonko, dont l'arrestation est à l'origine de ces violentes manifestations, fera face aux doyens des juges ce vendredi, ce qui fait craindre une nouvelle journée de violence à Dakar.
Deux lanceurs d'alerte ont été condamnés à mort par contumace en République démocratique du Congo pour avoir dénoncé une banque qui les accuse en retour de vol de documents, ce qui provoque l'indignation d'organisations anticorruption. Grady Koko Lubanga et Navi Malela, deux anciens salariés d'Afriland First Bank, auraient contribué à la dénonciation d'un milliardaire israélien à la tête d'actifs miniers au Congo, Dan Gertler, qui semble avoir utilisé un réseau de blanchiment d'argent s'étendant de la RDC jusqu'à l'Europe et Israël pour échapper aux sanctions américaines contre lui. Il est scandaleux que les deux individus œuvrant avec courage pour l'intérêt commun aient été condamnés à mort sans avoir eu même l'opportunité d'être entendus ou défendus, ont dénoncé dans un communiqué 14 organisations réunies au sein du réseau Le Congo n'est pas à vendre. Jean-Roger Villon, prochaines infos dans 55 minutes sur la même station.